France Musique. France Musique, les grands entretiens, Philippe Cassard.
Je m'appelle Nathalie Dessay, je suis née le 19 avril 1965 à Lyon, par hasard, et je suis chanteuse et comédienne.
Bonjour chère Nathalie, c'est un plaisir particulier de mener avec toi ces grands entretiens pour France Musique et ce tutoiement plutôt proscrit d'ordinaire à l'antenne. Nous allons, nous, le pratiquer sans esprit d'entre-soi, sans le côté éventuellement excluant qu'il peut renvoyer aux auditeurs, mais juste parce que nous sommes tout simplement, depuis 13 ans, autant compagnons de scène et de travail qu'amis proches et complices dans la vie. Alors merci d'avoir accepté de recevoir France Musique dans ta belle maison de la Varenne-Saint-Hilaire, à deux pas de la Marne, avec ce jardin rempli d'arbres, de plantes et de fleurs tout autour. L'été, c'est un feu d'artifice. Cette maison est toujours pleine, pleine de musique et pleine de monde. Tes enfants, leurs copains, leurs copines, vos amis, vos proches, des personnes que vous hébergez plus ou moins longtemps, je la sens, cette maison, comme un miroir de la générosité, du désir de partage, de la parole libre et de l'énergie qui émane de toi et de Laurent Naouri, ton mari aussi, bien sûr. Qu'est-ce que tu m'en dirais, toi, de cette maison, Arche de Noé, où vous vivez, Laurent et toi, depuis 23 ans ?
Déjà que... Je me souviens du jour où on a poussé la porte du jardin. Cette maison n'était pas à vendre. Et c'est notre agent immobilier qui s'est dit, parce qu'elle la connaissait, qu'elle correspondrait parfaitement à ce qu'on cherchait. Et donc on a sonné. Et là, qui nous ouvre ? Nathalie Stutzmann.
La mezzo à l'époque.
Oui, la mezzo contralto. On connaît bien, qui est aujourd'hui une merveilleuse chef d'orchestre aussi, et qui nous dit « Bah tiens, j'avais pas pensé que je pouvais la vendre, mais finalement c'est peut-être pas une mauvaise idée, on en avait parlé, je vous dis ça dans 2 mois, mais je vais y réfléchir. » Et je me souviens donc de ce jour où j'ai poussé la porte du jardin et où j'ai dit, sans même voir la maison, enfin sauf de l'extérieur, « C'est là. »
Qu'est-ce qui t'avait séduit ?
Alors, ce qui m'avait séduite, c'est d'abord le jardin et le marronnier bicentenaire au moins, qui orne et qui trône dans ce jardin magnifique.
Qu'était cette maison autrefois ? Parce qu'elle est très particulière, en tout cas l'intérieur est très particulier.
Oui, c'est une des premières maisons, je pense, du quartier. À l'époque, le terrain allait jusqu'à la Marne. Maintenant, il y a beaucoup de maisons qui se sont construites autour. Mais c'était un pavillon de chasse qu'un architecte nommé Jules Corboz a construit dans les années 1880-90. Et Jules Corboz, c'était aussi un fou de stuc et de statuaire, et c'est lui qui a, paraît-il, fait les statues à l'Opéra Garnier. Voilà, donc c'était un collaborateur de Garnier, et on a encore d'ailleurs dans une des pièces...
Ces stucs un peu spectaculaires.
Oui, des stucs un peu... Oui, c'est ça, un peu flamboyant de cette époque-là.
Que tu lui donnes un crayon et l'enfant bâtit sa maison. Et l'enfant bâtit sa
Alors, il y a plusieurs étages dans cette maison, mais il y a un sous-sol où il y a beaucoup de musique quand même maintenant, depuis quelques années.
Oui, parce qu'il y a un sous-sol assez grand dans lequel on a fait... Enfin, c'est mon fils, hein, surtout, qui a installé un espèce
Tom.
De... Voilà, Tom, qui est saxophoniste et chanteur, et qui a installé un studio de répétition et d'enregistrement, alors qu'on en est au tout début, hein, c'est encore pas très beau ni rien, mais ça fonctionne. Et donc, il y a beaucoup de groupes, notamment les siens, qui viennent répéter ici, enregistrer de la musique... Ensuite, au rez-de-chaussée, on a une pièce avec un joli piano dans laquelle on répète toute la musique classique, mais aussi le jazz.
Il y a aussi une vaste discothèque.
Il y a aussi pas mal de CD, oui, c'est plus du tout à la mode maintenant, mais...
Non, mais c'est quand même au principal de l'opéra ou de la variété et du jazz.
Oui, de l'opéra, de la musique classique, de la variété, du jazz, des musiques du monde, des comédies musicales, oui, essentiellement.
Et vous aimez recevoir, vous aimez que cette maison soit toujours pleine de monde.
Oui, c'est-à-dire que maintenant que les enfants sont partis habiter ailleurs, il n'était pas question de rester dans une maison aussi grande, seulement tous les deux. Donc du coup, elle sert essentiellement à accueillir... souvent, très souvent des musiciens, mais aussi des amis de passage, et plutôt des jeunes gens, parce que c'est quand même, ça met de la joie dans la maison.
Et ça donne de l'énergie.
Oui.
Et ça va bien avec la tienne aussi.
Oui, oui, absolument. Et donc, c'est une maison qui est une vraie auberge espagnole, on va dire.
On parlait de Laurent Naouri, ton mari. Vous êtes mariés depuis 30 ans. Enfin, dans quelques semaines, ça fera 30 ans. Comment un couple de chanteurs qui fait carrière internationale peut vivre comme ça sur le long terme une vie privée, affective, avec deux enfants? Comment ça a été possible, ces trois décennies?
Je ne sais pas. En fait, je ne sais pas très bien... On a fait en sorte que les enfants aient une stabilité, déjà. Donc, eux, ils étaient fixes. Et puis, on a essayé à tour de rôle de partir faire notre métier. Mais c'est vrai que c'est pas facile, surtout quand les enfants sont petits, je dirais.
T'en as souffert, toi ?
Ouais, moi, je dirais que je... Oui.
D'être éloigné pendant 2 mois, 3 mois, le temps que dure une production d'opéra ?
Oui, c'était dur.
Parce qu'au tout début, quand même, Skype, tout ça, ça n'existait pas vraiment.
Non, je me souviens, au début, pour téléphoner aux enfants, je me souviens, il fallait chercher des cabines téléphoniques dans les endroits où on était. Enfin, bon, c'était... Aujourd'hui, c'est un peu plus facile, effectivement, avec Skype.
Entre chanteurs professionnels, est-ce qu'on s'écoute? Est-ce qu'on se stimule? Est-ce qu'on se critique? Est-ce qu'on se conseille?
Oui, on s'entraide pas mal avec Laurent. Lui, il se révèle aujourd'hui un excellent pédagogue. Il m'a par exemple beaucoup aidé là, ces dernières années à reconstruire et à retravailler techniquement, ce que j'avais un peu abandonné depuis plusieurs années. Et oui, on essaye de se dire des choses... se critiquer le plus avec le plus de bienveillance possible, quoi. Mais nous, on est habitués à être critiqués tout le temps.
Par qui?
Les profs, déjà. Quand on apprend à chanter,
c'est dur, le monde lyrique au niveau professoral.
Dur. C'est-à-dire que c'est dur d'apprendre à chanter. C'est pas tellement les profs qui sont plus durs qu'autre chose, mais c'est surtout que c'est difficile d'apprendre à chanter parce que On ne touche pas notre instrument, on le voit pas. Donc c'est vraiment compliqué les premières années d'arriver à comprendre comment ça marche.
Mais pour revenir à Laurent, le fait d'avoir ensuite chanté sur scène avec lui, je pense notamment à Péléas et Mélisande à Vienne, parce que j'ai vu une représentation, et d'autres, Orphée aux Enfers aussi, je crois, avec Minkowski il y a fort longtemps. Quelle est la sensation sur scène ?
Bah, c'est toujours, on a toujours l'impression d'être moins seul. On a un allié de plus à nos côtés. Et en même temps, quand on est en train de chanter, on est seul malgré tout à exécuter le geste vocal et tout ce qui va avec. Mais c'est très plaisant de travailler en famille. D'ailleurs, aujourd'hui, on a un programme familial à tous les quatre.
Avec Neïma, dont on n'a pas parlé.
Oui, oui.
Neïma, alors c'est
Neïma,
une chanteuse.
Oui, qui est une chanteuse magnifique.
À l'orée d'une immense carrière.
Ouais, ouais. Elle a une super belle voix. Elle chante plutôt de la comédie musicale, des chansons, du jazz.
Elle a chanté au Lido dernièrement, il y a quelques mois.
Oui. Et c'est vrai qu'avec elle, on a beaucoup de plaisir aussi à partager cet amour qu'on a pour la comédie musicale et les chansons américaines.
And when hold his hand, you only hold his hand. The violins are all a blend. But if you're really wise, the silence of his eyes will tell you love.
Tu appartiens à une famille, enfin surtout du côté de Laurent, dans laquelle on relève le nom de Aldo Nauri, le fameux pédiatre, une des sommités mondiales de la pédiatrie. Ta belle-sœur, c'est la romancière Agnès de Sarthe, dont le mari est Dante de Sarthe, cinéaste, et dont le père est le fameux comédien, metteur en scène Gérard de Sarthe. Est-ce que, quand tu es marié avec Laurent, le fait d'appartenir aussi à cette belle famille vaste et quand même assez intellectuelle, ça a été quelque chose de positif pour ton évolution artistique?
Oui, je
ta curiosité personnelle.
Ce qui a été positif, c'est de rencontrer des gens qui m'ont accueilli vraiment.
Qui t'ont aimé.
Oui. Ça a été vraiment quelque chose, parce qu'on n'a pas parlé de Elsa, qui est aussi metteur en scène, dramaturge, qui a aussi enseigné aux jeunes comédiens. C'est une famille vraiment très brillante. Ce qui était beau, c'est aussi d'avoir découvert une autre culture, puisqu'il faut dire que je me suis convertie au judaïsme pour... afin que mes enfants soient juifs, en fait. Ça importait à Laurent. Et donc voilà, je suis très contente de m'être convertie, d'avoir rencontré aussi des gens extrêmement intéressants dans la communauté qui a bien voulu m'accueillir. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, si on veut se convertir au judaïsme, on ne peut pas aller chez ce qu'on appelle les orthodoxes, hein, c'est-à-dire... les représentants du consistoire, hein, puisque les juifs ne sont pas du tout prosélytes, donc on ne peut pas se convertir comme ça. En revanche, il y a des communautés qui sont plus accueillantes, et je suis allée vers l'une d'elles, qui s'appelle les Massortis, et vraiment, je remercie tous les jours le rabbin Rivon Krigier, notamment, et cette communauté magnifique de m'avoir accueillie à l'époque.
Oh.
France Musique, les grands entretiens de Nathalie Dessay.
Alors, le portrait ne serait pas complet, en tout cas de cette maison, sans les chats.
Alors, il y a eu 3 chats à une époque. Maintenant, il n'y en a plus qu'un, très très vieux, qui a presque 19 ans. Et qui est né ici, d'ailleurs. Oui, c'est aussi une maison à chats, c'est vrai. J'aime énormément les chats et je crois qu'ils me le rendent bien. Il faut dire que je les sers avec promptitude et dévotion.
Est-ce que tu peux quand même rappeler les prénoms que tu as osé leur donner ? Moi, quand on s'est connus, ils étaient 3, il n'y en a effectivement plus qu'un. Il s'appelle comment le dernier ?
Alors, le dernier, bon, c'est le gros, mais...
Voilà.
Mais
il ressemble à Brahms, moi, toujours.
Non, mais il s'appelait Kist, mais parce que les deux autres s'appelaient Polype et Nodule. Mais parce qu'il faut dire que j'ai acquis les deux premiers chats, donc Polype et Nodule, après la deuxième opération des cordes vocales. Et donc, c'était pour signifier qu'à partir de ce moment-là, les chats ne seraient plus jamais dans ma gorge, mais à l'extérieur de moi. Donc, et ça s'est avéré.
J'ai lu dans un questionnaire de Proust auquel tu avais répondu qu'une de tes idées du bonheur, c'était une maison face à la mer.
Oui.
Depuis quelque temps, tu as cette maison face à la mer.
C'est pas tout à fait la mienne, mais c'est celle de mes parents.
De tes parents, mais enfin, tu y vas très souvent.
Oui, j'y vais le plus souvent possible. Pas très souvent, parce que je travaille beaucoup, mais c'est vrai que j'aime beaucoup cette idée d'avoir un endroit d'où on voit la mer.
Mais t'es pourtant pas du tout une contemplative.
Si, en fait.
Vraiment ?
Ah oui. Ah oui. Je peux rester des jours entiers à ne rien faire, par exemple.
Où ?
Ben, chez moi. Alors là, ici...
Qu'est-ce que t'appelles ne rien faire ? Parce que moi, je ne te connais pas vraiment ne rien faire.
Non, ne rien faire, c'est vraiment ne pas du tout être productive. Ça peut être... être dans mon jardin... à ne même pas couper une rose, ou regarder la mer, ou...
Et rêvasser ?
Rêvasser.
Écouter la radio ?
Ou écouter la radio, regarder la télé, surtout des trucs de meurtre.
Vraiment ?
Oui, j'adore ça.
Et tu fais pas de cauchemars ?
Non.
Parce que tu dors très peu, quand même.
Je dors pas beaucoup, mais... Je me souviens jamais de mes rêves ni de mes cauchemars.
Tu dors avec la radio ?
Oui, ça me berce.
Stop is 42nd Street.
Come here, Vinny.
Quel enfant tu étais quand tu avais 6-7 ans? Tu as des souvenirs de ton enfance?
J'étais quelqu'un qui voulait pas manger. Et qui avait des idées bien arrêtées, je crois, déjà.
Plutôt extraverti?
Oui.
Ou... Oui.
Oui,
sachant ce qu'elle voulait?
Oui, j'étais...
Capricieuse?
Oui, probablement aussi.
Ah oui?
Oui.
Répondant à sa maîtresse ou à ses parents?
Non, pas à l'école. À l'école, j'étais hyper disciplinée. Mais à la maison, j'ai souvenir d'avoir commencé à répondre. Peut-être pas quand j'avais 8-9 ans, mais après. Ouais.
Plutôt pile électrique, comme maintenant?
Oui, je pense que ça, c'est...
C'était déjà dans ton caractère. Pleine d'énergie, débordante d'énergie.
Oui, beaucoup d'énergie. À l'époque, je faisais de la danse, du piano.
Et dans quel environnement tu as évolué? Est-ce que tes parents, par exemple, étaient mélomanes ou pas vraiment? Ou est-ce qu'ils t'emmenaient au cinéma?
Ma mère aimait bien la musique classique. Mon père s'y est mis un peu plus tard, mais il aimait beaucoup les symphonies de Beethoven, je me souviens.
Qu'est-ce qu'il faisait, ton père, comme professeur?
Mon père, il était ingénieur. Il avait fait l'INSA à Lyon. C'est pour ça que je suis née à Lyon. Et comme ma mère était de Bordeaux, en fait, elle a préféré retourner vers Bordeaux. Et donc, mon père étant ingénieur à cette époque-là, c'était assez simple de trouver du travail. Donc, il a commencé par construire des ponts roulants. Et puis, il a travaillé pour des abattoirs. Et puis, ça, c'était encore avant. Et puis après, assez rapidement, il a travaillé pour la Société Nationale des Poudres et Explosifs.
Et ta mère exerçait une profession ?
Non. Ma mère s'est occupée de nous, elle a travaillé un peu à la
Caisse
d'Épargne.
Quand tu dis
nous ? Mon frère et moi.
Ton frère aîné ou cadet ?
Mon frère cadet, qui lui, aujourd'hui, travaille chez Audience, donc il travaille aussi pour moi, d'une certaine manière.
caisse de retraite.
Voilà, la caisse de retraite des artistes.
Mais je reviens à ma question, est-ce qu'on t'emmenait voir des, par exemple des films de Walt Disney?
Ah oui.
Est-ce qu'on t'emmenait à des concerts ou à des concerts de variété, des tours de chant comme on disait,
non,
ou au cirque?
Plutôt, oui, je me souviens du cirque parce que j'avais un voisin qui s'appelle toujours d'ailleurs Jean-Yves Le Métayer, qui était fan de cirque, alors j'allais au cirque avec lui. On allait au ballet aussi parce que moi je faisais de la danse classique.
Donc ah, tu t'es mis à quel âge?
Oh, je sais pas, 6-7 ans.
Ça te plaisait?
Ah oui, beaucoup. Je voulais devenir Maya Plissetskaya,
rien
multipliée
moins
par Noëlla Pontois.
Et tu les voyais, ces danseuses-là, à la télévision?
Alors, non, enfin, je les voyais à la télévision, j'avais des livres de danse, oui. Mais je me souviens avoir vu Francesca Zumbo dans Scheherazade.
Et t'avais quel âge?
Au Grand Théâtre. Oh, je devais avoir 10-12 ans, je sais pas.
C'est venu comment? C'est ta mère qui t'a dit tu vas aller faire de la danse, ou c'est venu question que tu...
Je crois que j'ai dû émettre le vœu de faire de la danse parce que je devais en avoir vu à la télé ou... Je me souviens pas.
Et t'as aimé?
Ah, j'ai adoré.
Je veux vivre dans ce rêve qui est mon univers.
À peu près à l'âge de 18 ans, t'as arrêté la danse?
Oui, je me suis mise à faire du théâtre au conservatoire à Bordeaux.
Qu'est-ce que c'était les cours de théâtre à l'époque?
Oh, bah, y avait de la diction, y avait les cours du samedi matin où on faisait des scènes classiques, et puis notre prof principal qui était Gérard Laurent nous a fait travailler sur Marivaux et Jean Genet, donc c'était hyper intéressant, je me souviens.
Et ça suivait des études classiques normales, on va dire? T'avais eu ton bac?
Oui, ça c'était après le bac, oui. Et donc je me suis inscrite en fac d'allemand aussi à l'époque, et au bout d'un an et demi, j'ai quitté la fac d'allemand pour ne faire que du théâtre.
Alors, je me suis laissé dire que c'est en fait au cours d'une pièce où tu interprétais un lutin, c'est ça? À un moment donné, tu dois chanter,
non,
c'est ça?
Non, alors c'est pas là. C'est-à-dire qu'il y a eu ça, mais il y a eu aussi une autre pièce qui était Les égarements du cœur et de l'esprit de Crébillon fils, dans laquelle je devais chanter un air d'opéra. Et je jouais le rôle d'une espèce de marquise un peu fofolle qui chantait de l'opéra. Et donc, je me suis souvenu de l'air de Pamina.
Dans La Flûte Enchantée.
Dans La Flûte Enchantée, que j'aimais beaucoup. Et comme je parlais allemand, j'ai chanté ça.
Mais avec quelle voix? La voix chantée non travaillée?
Alors, il faut dire qu'à l'âge de 17 ans, j'avais commencé à prendre des cours de chant.
Avec qui?
Avec une prof chez qui j'étais allée pour normalement faire du piano. Mais assez rapidement, je me suis aperçue qu'elle était prof de piano à peu près comme moi. et je ne sais pas comment c'est passé, mais on est passé du piano au chant.
Elle s'appelait comment, cette dame?
Elle s'appelait Josiane Saintret. Et elle était bouchère-charcutière.
L'air de Pamina, extrait de La Flûte Enchantée de Mozart, avec Nathalie Dessay. Louis Langré dirige l'orchestre The Age of Enlightenment. Ainsi se referme ce premier épisode des Grands Entretiens de Nathalie Dessay, une série proposée par Philippe Cassard et réalisée par Françoise Cordet. Le podcast est disponible sur l'appli Radio France.
À réécouter sur francemusique.fr.